France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien, sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité a choisi d'évoquer un poète, un romantique allemand, qui s'était mis en tête de rassembler en une encyclopédie toute l'histoire de l'humanité. Une encyclopédie fragmentaire, fulgurante, forcément impossible, inachevée, en tout cas, par la mort de son auteur à l'âge de 29 ans, son nom Novalis.
La rêverie, oui, elle doit avoir ses traits assez différents pour chacun de nous. Bien que nous communiquions volontiers avec celle de tel ou tel autre, et que celle des poètes se soumette la nôtre parfois. Faut-il que le matin toujours renaisse? La domination du terrestre ne prendra-t-elle jamais fin? Une activité funeste retarde l'arrivée céleste de la nuit. Le sacrifice caché de l'amour ne pourra-t-il jamais brûler éternellement? Une durée limitée fut dévolue au jour, mais la domination de la nuit ne connaît ni durée ni espace. Celui qui parle ainsi s'appelle Novalis, et je ne crois pas que nul vrai poète le contredise jamais.
Bonjour Jean-Christophe Bailly.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes écrivain, vous avez écrit de la poésie, du théâtre, de nombreux essais sur l'art, les paysages, les animaux, la photographie. Votre dernier essai paru aux éditions La Fabrique s'intitule « La ville en éclats ». Et en écoutant cette archive de 1953, extrait de l'émission « Dormeur éveillé », c'était sur Paris Inter, vous avez eu des frissons. Alors, non pas en écoutant la beauté du texte de Novalis, mais plutôt devant la prononciation.
Oui, non, cette forme de diction, c'est-à-dire où l'espace, ça devient l'espace, comme ça, et ainsi de suite.
C'est l'amour.
L'amour, c'est exactement le contraire de ce à quoi on est sensible aujourd'hui. Mais ce qui est le plus grave, c'est que ça vide les textes de leur substance réelle, c'est-à-dire au lieu qu'on les écoute, on est devant une espèce de... comme quelqu'un qui ferait des trémolos en chantant, ou comme un violoncelle qui n'arrêterait pas de traîner. Enfin, c'est assez affreux, oui.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu l'image dont souffrent les romantiques allemands? C'est-à-dire qu'on va parler de Novalis, vous allez nous dire qui il est, comment vous l'avez découvert, ce qu'il représente pour vous. Mais le romantisme allemand, et d'ailleurs il faudra le distinguer aussi du romantisme français, oui. Ça souffre quand même, cette idée, le romantisme, truc de grand lyrisme, oui. de mièvrerie, de grands sentiments.
Ben, il y a de ça, hein, de toute façon, y compris chez les romantiques allemands, mais ceux d'entre eux que je préfère. Mais disons que, déjà par rapport au romantisme français, c'est la grande différence, c'est que c'est un mouvement bien avant déjà, c'est 30 ans avant. C'est beaucoup plus bref, comme ça, il y a un côté fulgurant.
Donc on est au tournant du 19e siècle, c'est fin 18e, début 19e.
Extrême fin 18e. Dans le sillage d'ailleurs de la Révolution française, avec une sensibilité manifestée à cet ébranlement. Et puis, ça court jusqu'à 1810-15, puis pour ceux qui ont eu la chance de vivre un peu plus longtemps, mais au-delà. Mais disons, c'est très serré, et c'est très serré même dans l'espace, dans la géographie allemande. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois foyers, quoi. Le principal étant en Thuringe, en Saxe, autour de Iéna. Et ce qui caractérise, c'est l'extrême jeunesse, quoi, de ceux qui ont été les romantiques allemands.
Mais ils ont tous mais morts
la grande, non, pas tous. Novalis est mort en effet très très jeune.
À 29 ans.
Mais la principale différence avec le romantisme français, c'est la dimension spéculative. C'est-à-dire, ils étaient tous où ils connaissaient assez bien certaines sciences, ou telles qu'elles étaient à l'époque, bien sûr, où ils étaient très très liés, très attachés à la philosophie, et proches même. Ils ont côtoyé Fichte et Schelling, Hegel beaucoup moins, mais c'est ce climat qu'on appelle celui de l'idéalisme allemand. Et donc il y a une dimension, et chez Novalis notamment, il y a une dimension de pensée qui est constante dès le départ.
Alors c'est vrai que dans cette encyclopédie, on trouve des fragments sur les sciences de la nature, les mathématiques, des remèdes aussi pour aller mieux. On trouve de tout. Est-ce que c'est ça qui prémunit les romantiques allemands de tomber dans ces grands sentiments qui peuvent devenir un peu caricaturaux ?
Il y a certains aspects de l'œuvre de Novalis. C'est incroyable que, qu'on dit l'œuvre, en étant mort à 29 ans, il a énormément écrit, en fait. Mais dans le roman Ried of Thüringen, où on trouve quand même des passages assez, pour nous, assez...
un peu
qui nous semble en tout cas un peu mièvre, mais bon, c'est évidemment pas ce qui m'avait intéressé à l'époque. Et ce qui m'avait intéressé aussi, c'est un aspect dont il faut parler, qui est ce livre est inachevé, mais sa dimension fragmentaire, elle tient pour partie à l'inachèvement et sans doute pour partie à autre chose. Parce que la forme fragment, elle a été théorisée, défendue comme une forme autonome par les romantiques allemands, qui aussi ont fait ce saut dans l'histoire de la littérature européenne, c'est-à-dire qu'ils ont complètement reconsidéré, ce que n'ont pas du tout fait les romantiques français d'ailleurs, la notion de genre, c'est-à-dire... que pour eux, le roman devait se déborder comme poème, le poème devenait aussi se déborder comme roman, la critique devenait poésie, la poésie pouvait être critique, etc.
Les maths devenaient aussi du roman.
Et ils incluaient, et lui, et Novalis particulièrement, il inclut dans sa spéculation la chimie, l'agriculture, un peu tout. Et lui-même, il ne faut pas l'oublier, il était ingénieur. Il a fait ses études à la plus vieille école de minéralogie d'Europe, qui était dans la ville de Freiberg, où il travaillait, il connaissait très très bien les sous-sols, toutes les histoires des mines. Alors par exemple, si on prend la mine, il y a la notion de veine, une veine comme ça qui parcourt la terre. Évidemment, immédiatement, il voit l'aspect métaphorique, etc.
Alors, est-ce que vous avez reconnu dans l'archive qu'on a entendu la voix de celui qui lisait si mal cet extrait, non pas de l'encyclopédie de Novalis, mais des hymnes à la nuit de Novalis ?
Non, j'ai pas reconnu la voix.
C'était André Breton.
Oui, c'est ça m'étonne pas malheureusement.
Qui lise aussi mal ?
Oui, j'ai commencé moi à sortir des rails, disons, qu'on nous indiquait. Comme tout indiqué au lycée et tout ça, par le surréalisme. Et ça a beaucoup compté pour moi, etc. Mais la déception que j'ai eue, d'ailleurs, il y a longtemps, donc c'était même en fréquentant des gens qui avaient été proches de Breton, etc. La déception, c'était en effet cette pompe, cette enflure, etc. Oui, non, j'ai pas reconnu sa voix. Je savais qu'il lisait mal, mais pas à ce point-là. Là, c'est grave. C'est vraiment très, très, très mauvais, quoi. Je pense d'ailleurs qu'un comédien s'en serait rendu compte, peut-être, quand même.
Mais on n'a pas osé lui dire, c'était André Breton.
Non, mais oui, il y avait, et autour de lui, il y avait cette, enfin, moi, je l'ai pas connu vivant, mais j'ai connu des gens qui l'avaient été proches de lui. Il y avait, comme ça, un aspect, bon, gourou, quoi. Il fallait pas le critiquer, etc. Et je me suis fâché avec ces gens-là, d'ailleurs, en émettant des critiques. Très net. Et une des choses qui m'a éloigné du surréalisme côté chapelle, la chapelle surréaliste, c'est justement d'avoir fréquenté très tôt les romantiques allemands. Ça m'emmenait quand même ailleurs.
Voilà, c'est ça la question que je voulais vous poser. C'est-à-dire que le surréalisme, quand on est au collège ou au lycée, tout à coup apparaît pour nous, élèves, comme une sorte de bouffée d'air frais. Il y a l'écriture automatique.
Ce qu'est la vérité, hein, c'est vrai, c'est une bouffée.
Voilà.
L'air frais.
Voilà. Oui. Mais au bout d'un moment, on s'ennuie quand même un peu.
Oui. Je dis, ça a changé parce qu'il y a, quand j'étais au lycée, maintenant c'est il y a 60 ans, et c'était pas pareil. Ils y étaient pas. On les enseignait pas du tout.
Oui, alors que moi j'ai eu Nadja d'André Breton, par exemple, en terminale. Et donc, et avant, voilà, on a quand même, on nous rend familier, on nous fait découvrir ce courant du surréalisme. Pour vous, vous aviez quand même découvert ce moment-là, voilà, bouffée d'air frais, mais très vite, vous êtes quoi ? Vous êtes un petit peu frustré, et c'est là où les romantiques allemands.
Oui, en fait, c'est pas aussi net que ça. Le souvenir le plus lointain que j'ai, en fait, c'était une dame qui était professeure de français, une dame très charmante, elle était contrefaite, elle était bossue,
Et très... Ah, vous dites contrefaite.
Ben, on disait ça autrefois.
Je connais pas du tout ça.
Et elle était très charmante en même temps, maquillée. Et elle dit un jour, je vais vous faire un cadeau, je vais vous faire une dictée sans ponctuation. Et paf, c'était la chanson du mal-aimé de Apollinaire. Et c'est, je crois, j'avais 14 ans. C'était une révélation. Mais c'est, je m'en foutais qu'il n'y ait pas de ponctuation, mais c'est, je trouvais ce texte absolument sublime. Et ça doit être la première fois que j'ai été acheter un livre avec mon argent de poche, quoi. Mm-hmm. Alcool, en l'occurrence. Et c'est, et comme de juste, dans Alcool, il y a les Rénanes, etc. Donc c'est déjà une, quelque chose qui, il avait un sens de la langue française absolument, de la résonance de français, du français comme tel, qui était extraordinaire pour ce Polonais né à Monaco. Mmh. Et en même temps, il y a un des parties les plus importantes d'Alcool, c'est les Rénanes, etc. Et il y a le poème sur la fille qui se jette dans le Rhin, etc. Et donc, ça a vraiment eu la fonction de... Comme si tu ouvres une bouteille et tout un parfum sort. Et ça m'a influencé pour la vie, ça. Donc, les romantiques allemands, le surréalisme, c'est dans l'élan de ça. Gamin, adolescent.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez découvert l'encyclopédie de Novalis, déjà, on va dire, shootée par Apollinaire et les surréalistes?
Oui, ben j'étais, je sais pas, là j'ai retrouvé mon volume, donc qui s'appelle en effet l'encyclopédie, faudra dire pourquoi.
Oui.
Mais j'ai retrouvé là sur la page de Le Garde, il y a marqué 4-6-71. Ça veut dire 4 juin 1971, c'est évidemment le jour 22. C'est le jour où je l'ai acheté. Je ne me souviens pas de la librairie, de quelle librairie c'était, mais je me suis jeté dedans, quoi.
Qu'est-ce qui vous a plu?
Ben, tout de suite, c'est-à-dire cet aspect extraordinairement touffu. C'est comme des taillis sous futaies. On circule, on s'y perd, on s'y retrouve, il y a brusquement une clairière, après on sait pas pourquoi, on se retrouve en lisière, etc. Et avec la pulsion encyclopédique, si on peut dire, il brasse absolument tous les savoirs de son temps, tels qu'il pouvait les percevoir lui-même, jeune homme. C'est-à-dire qu'il va faire un développement sur le corps, avec ce dont on a besoin. Il y a des passages sur la marche à pied, il y a des choses sur la... La seule chose qui est absente, au fond, par rapport à notre époque, c'est une réflexion sur la ville. Et puisque finalement, et c'est peut-être un petit peu, moi, ce qui m'éloignerait... C'est pas moi que ça éloigne, c'est le romantisme allemand s'éloigne un petit peu de nous aussi, parce que c'est juste avant la révolution industrielle. C'est-à-dire que c'est un monde où il n'y a pas d'usine, c'est un monde où il n'y a pas d'ouvriers, où il y en a, mais bon, ils sont...
Et qu'il met à distance.
Ils les mettent pas, ils étaient pas là.
Non, je veux dire, cette absence-là nous met la lecture de Novalis à distance.
Celle de Novalis et de bien d'autres gens. Si vous lisez un personnage complètement opposé à Novalis qui est Chateaubriand, il n'y a pas non plus d'usine et encore moins d'ouvriers. Il aurait pensé que ça salissait sa grandeur.
À quelqu'un qui ne connaît pas du tout Novalis ni les romantiques allemands, comment vous présenteriez ce texte que vous avez dans une édition qui date de 66, aux éditions de Minuit, celle que vous avez achetée en 71, mais qui n'existe plus en tant que telle. Maintenant, il y a les œuvres complètes de Novalis. Moi, j'ai celle de chez Gallimard, où en fait l'encyclopédie est répertoriée sous le titre Grand Répertoire Général. Donc voilà, déjà on s'y perd un peu dans il y a cet écart temporel, il y a ce problème d'édition, il y a le fait que les romantiques allemands, on a des a priori. Alors comment vous donneriez envie, vous définiriez Novalis pour susciter cette envie-là?
Déjà, je voudrais vraiment que les éditions de Minuit republient
Donc c'est un appel qui est lancé.
Ce volume. Mais il y a eu du travail quand même depuis, c'est-à-dire il y a notamment Olivier Schaeffer a publié une bonne partie de ce qui s'appelle ici l'encyclopédie dans un livre qu'il a intitulé, en reprenant une notion forgée par Novalis, « Brouillon général ». Et cet intitulé est très très juste, puisque c'est ce devant quoi nous sommes. Puisque le titre d'encyclopédie, surtout apparu tout début du 19e siècle, évidemment qui fait référence à la grande encyclopédie de Diderot, d'Alembert, du 18e. Mais il s'en distingue, et c'est raconté, c'est dit à certains moments, il s'en distingue dans la mesure où le sujet qui écrit, qui anime, si on peut dire, l'encyclopédie, n'est plus l'héritier de l'homme de Descartes qui jette sur le monde un regard malgré tout de haut, un petit peu.
Et puis très scientifique.
Scientifique, c'est peut-être à la limite. C'est très scientifique aussi, d'une certaine manière, l'encyclopédie de Novalis. Mais la grande différence, c'est que. Si on reste avec j'ai parti avec Descartes, là j'ai sous les yeux j'avais noté pour vous une citation de Novalis, elle est dans l'encyclopédie, moi égale non moi, principe suprême de toute science et de tout art. Et c'est donc ça, c'est directement en pour se distinguer, pour s'écarter, disons, du moi cogito qui est celui qui a, avec tout l'extraordinaire découverte intellectuelle de Descartes, je ne vais pas la remettre en cause, mais qui, en effet, suppose qu'il y a d'une part un sujet, d'autre part un monde qui est l'objet de ces idées, de ces représentations, de ces réflexions. Or, pour Novalis et les romantiques allemands, ce qui compte, c'est une espèce
de continuum
entre l'homme, en l'occurrence, et ce qu'ils appelaient, ce que je crois qu'on peut, malgré Philippe Descola, continuer d'appeler la nature.
Et bien justement, Jean-Christophe Bailly, on va écouter des fragments de cette encyclopédie. Parmi ces fragments, celui que vous venez de citer.
Nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit. Le paradis est pour ainsi dire dispersé à travers la terre entière. L'homme n'est pas seul à parler. L'univers aussi parle, tout parle, des langues infinies. Tout phénomène est un élément dans une chaîne illimitée qui englobe à titre d'élément tous les phénomènes. Il n'est aucune limite qui ne soit là pour être dépassée, et ainsi de suite. La représentation du monde interne et celle du monde extérieur se constituent parallèlement, en avançant, comme le pied droit et le pied gauche, mécanisme significatif de la marche. Le moi est le lieu commun absolu, le point central. Moi égale non-moi, principe suprême de toute science et de tout art. La liberté est une matière dont les phénomènes singuliers sont les individus. La représentation du monde interne.
Quelques fragments tirés de l'encyclopédie de Novalis. On a même eu un autre bout de fragment. En plus, on voit bien la dimension fragmentaire donc, de cette encyclopédie que vous avez choisie, Jean-Christophe Bailly. Alors, on a essayé de les rassembler, mais c'est difficile en fait, parce que, comme vous dites, c'est des bouts qu'on picore comme ça et qu'on doit forcément parfois laisser en l'état.
Oui, en fait, la liste que je vous avais préparée, donc qui sont les textes qu'on vient d'entendre, enfin les fragments qu'on vient d'entendre, c'est très variable. Il y en a qui apparaissent dans le volume comme fragments, il y en a d'autres que j'ai extraits. Mais disons que moi j'appelle ça ma boîte à outils. En fait, c'est les phrases dont je me sers constamment. Et il y en a une autre. Je vais juste la lire en vitesse parce qu'elle est pas longue. C'est justement je parlais là. Elle est pas dans l'encyclopédie, mais j'appelle nature en gros la somme de ce qui nous touche. On l'appelle la nature. Et plus loin, nature est cette communauté merveilleuse où nous introduit notre corps.
Jean-Christophe Bailly, vous savez quoi ? On a aussi le texte. C'est extrait des disciples à Saïs.
Oui.
On l'écoutera tout à l'heure.
D'accord.
Mais on l'a bien noté aussi. Oui, on va pouvoir reparler de la question de la nature. Mais à propos de ces fragments quand même, là, c'est vrai qu'il y a cette idée d'illimité, d'infini, de... Vous dites que c'est comme votre boîte à outils. Vous vous en servez pour quoi ?
Ben, je m'en sers... c'est très variable. Il y a, par exemple, très souvent, on me demande, mais pourquoi vous n'écrivez pas de romans, etc. Donc, toujours, presque toujours, je me sers de cette phrase qui est pour moi extraordinaire, surtout que quand on la remet à son époque, 1800, quoi. Nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit. Le en grand et en petit, c'est très important. Et je dis, ben voilà, moi, je vis dans le roman, je veux pas en rajouter en ce qui me concerne. Aussi, tout bêtement, là, c'est une question purement personnelle, je n'ai pas la pulsion du narratif. C'est Barthes avait fait ce truc, il parlait de deux pulsions fondamentales, la pulsion narrative et la pulsion du poème. Et moi, c'est, depuis toujours, c'est celle du poème qui m'a propulsé, disons. Mais voilà. Et puis après, ces phrases, ouais, le paradis est pour ainsi dire dispersé à travers la terre entière. D'un côté, on peut la lire, on peut l'entendre, cette phrase, comme, oui, d'accord, le côté angélique, etc. Mais d'un autre côté, non. Ça veut dire que, je me souviens, un des premiers livres que j'ai publié, ça s'appelait Le paradis du sens, justement, et qui venait directement de cette phrase-là. Et c'était de prendre au sérieux cette notion de dispersion, cette notion de quelque chose qui est essaimé, qu'en fait, on vit dans une sorte de puzzle éclaté. Et à mon avis, ce que nous avons à faire, c'est surtout pas d'essayer de le reconstituer.
Ah bon ?
Non. Ben non, parce que ça, c'est ce qu'essayent de faire les religions, avec en plus, y aurait la marque de fabrique du type qui a fabriqué le puzzle, et c'est pas du tout comme ça. C'est juste, ce qui est très excitant, c'est d'ajointer deux pièces, trois pièces, et puis hop, mais immédiatement, dès qu'on travaille sérieusement, le continent devient archipel. Il n'y a pas moyen de continentaliser.
Ce qui vous plaît, donc, c'est à la fois une dimension formelle, fragmentaire, qui correspond à ça, mais aussi un côté anti-système. C'est-à-dire que, je ne dis pas anti-système que punk, mais anti-de construction d'un système, systématisation.
Il y a beaucoup de la part de Novalis aussi, de Friedrich Schlegel, il y a beaucoup de réflexions sur le système, l'anti-système. Est-ce que ce qu'on fait, il y a quelque chose. Et en fait, ils sont fondamentalement opposés au système. C'est-à-dire, ils ont quand même une très juste intuition, à mon avis, du fait que le système, de toute manière, il se défait constamment par les impacts, comme on dit maintenant, d'un devenir et d'un travail constant.
Est-ce que le rôle du poète pour une personne comme Novalis, hein, vous l'avez dit, c'était un ingénieur. Voilà, il est né en 1772 sous le nom de Friedrich von Hardenberg. Il est mort en 1801 de tuberculose. Mmh. Il s'est fiancé. Mmh. Et puis il a été dévasté par la mort de Sophie, sa fiancée, et donc lui qui se destinait à une vie très tranquille dans l'administration, dans les salines, d'ingénieur, voilà. Bon bah tout à coup se révèle poète. Est-ce que
très tranquille, je suis pas sûr, parce que sûrement il a dû décider de devenir poète très tôt, bien avant de rencontrer
Sophie.
Mais c'est très étrange d'ailleurs ce qu'il construit à partir de la mort très prématuré de cette très jeune fille, et parce qu'il lui survit à proportion de sa vie, il lui survit longtemps quand même. Et il construit quelque chose, on peut pas ne pas penser à Dante et Béatrice, mais davantage encore que Dante, il reste vivant au-delà de la mort, et construit une espèce de religion dont la Béatrice s'appelle Sophie. Mais qui est d'ordre strictement privé, avec des visites au cimetière, des moments de concentration. Mais en même temps, il raconte qu'il se refiancie avec une autre dame, et c'était pas du tout un homme non charnel. Donc mais c'est très, très étrange.
Mais cette dimension justement de mystique, mais d'anti-religion, d'anti-système, est-ce que c'est le poète en fait qui vient mettre presque de la... Est-ce que ce serait de la transcendance, de la mystique, enfin quelque chose qui en tout cas cherche à percevoir et peut-être à expliquer le secret du monde, de la continuité entre les êtres. On l'a entendu quand même, cette idée d'univers illimité, de relations entre les objets et les sujets, entre le monde et les hommes. Est-ce qu'il pense que c'est au poète de le faire, tout en échappant à un côté moral, dogmatique de la religion ?
Justement, il a un peu varié là-dessus. On pourrait trouver des arguments comme quoi il bascule dans un certain moralisme, etc. Et aussi que à un moment donné, il se rapproche quand même d'une espèce de christianisme amplifié, si on peut dire.
Ce qui vous pose un problème, on peut le dire tout de suite.
Moi, ça me pose un énorme problème, le christianisme en général, d'ailleurs. Mais disons que à d'autres moments, on voit bien que ce qu'il défend avant tout, c'est l'idée, au fond, on pourrait dire, d'une écoute. C'est-à-dire que ce qu'il demande au poète de faire, c'est de percevoir, justement, le secret. Pas de l'expliquer, le comprendre, le décrypter. Je pense pas qu'il ait cette innocence-là. Justement, dans les disciples à Saïs, il y a à la fin quelqu'un qui enlève le voile, qui cache la vérité, et qu'est-ce qu'il voit lui-même. Ça veut pas dire qu'il est la vérité, ça veut dire que la vérité, de toute manière, elle reste inatteignable.
Donc il n'y a pas cette quête-là de dévoilement.
Mais disons, il y a une espèce d'effritement généralisé de la transcendance. C'est ça le paradis dispersé à travers la terre entière.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fragment, Jean-Christophe Bailly ?
Déjà, sa brièveté,
c'est facile à lire, c'est ça ?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si on les extrait, les fragments, là, comme j'ai fait tout à l'heure, comme on a fait.
Par exemple, tout phénomène est un élément dans une chaîne illimitée qui englobe à titre d'élément tous les phénomènes.
On comprend bien ce qu'il dit, mais on peut commenter ça pendant, ça peut générer plusieurs livres, et ça l'a fait d'ailleurs. Mais c'est différent de l'aphorisme. L'aphorisme a toujours une dimension morale, une dimension un peu comme les morales à la fin des fables de La Fontaine, c'est comme ça, et il y a un côté péremptoire de l'aphorisme que le fragment n'a pas. Mais c'est Friedrich Schlegel qui, justement, dans les fragments publiés dans la revue qu'ils ont fait à l'époque, la première revue d'avant-garde de l'histoire européenne, qui s'est vécue comme une revue d'avant-garde, l'Athénéum, elle s'appelait, il dit que le fragment doit être comme un petit hérisson. C'est-à-dire, avec les aiguilles tournées vers l'intérieur et complètement concentré sur lui-même. Donc, on pourrait dire, l'encyclopédie de Novalis, on pourrait dire que c'est en partie un troupeau de hérissons, mais c'est aussi bien autre chose.
Mais on n'a pas envie de toucher un hérisson.
Oh, ça dépend, ils sont très mignons.
Oui.
Enfin, non, moi, le toucher, non.
Mais... Voilà, on va pas caresser un hérisson, ça m'est déjà arrivé d'en toucher un.
C'est pas agréable. C'est pas caressable.
Est-ce que vous trouvez quand même, cette idée cette image du hérisson, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le fragment, quand même, on a l'impression que c'est facile parce que c'est court, mais comme vous l'avez dit, on peut y passer des jours, des années à le commenter. Mais je trouve que c'est une forme qui est un peu hostile. Qui, quand même, derrière une forme de facilité, est redoutable.
Non, pas, c'est très lié chez eux, en tout cas chez Novalis à coup sûr, c'est très lié aussi à une notion qu'ils ont été les premiers, je crois, à penser, c'est une notion de vitesse, la vitesse de la pensée. Et l'intuition, pour eux, c'est le schème fondamental de la pensée. C'est brusquement, comme ça, on trouve dans le journal, ils racontent, qui se promène dans la campagne. J'ai eu brusquement devant la barrière de Groningue la révélation du moi fichtéen. Parce qu'il lisait Fichte et paf, on se promène. Et c'est comme ça, c'est que la pensée, ce qui arrive à la pensée, c'est ce qui surgit en elle. D'où ça vient, on sait pas, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et la notation. Alors là, pour moi, ça raconte énormément.
Alors allez-y.
La notation, c'est, disons, le chemin le plus court entre la pensée qui jaillit et la forme qu'elle peut prendre comme écriture. Et moi, j'ai constaté ça souvent, c'est que très souvent, quand on note, on n'a pas le temps de... c'est pas écrire au sens de œuvrer, mais très souvent, après, on reprend ce qu'on a voulu noter, et on retrouve pas la... ponctualité, il n'y a pas d'autre mot, la ponctualité qu'il y avait dans la note. Et les fragments tels que les ont théorisés les romantiques, ils ont cette qualité-là, comme une acupuncture, paf, pile au bon endroit. Et c'est ça, donc après, bon, acupuncture, voilà, après les hérissons, l'épingle, etc. Mais il s'agit
de saisir l'instant.
Voilà, oui, il y a un côté d'instantané.
Le Vous côté... avez travaillé sur la photo, donc j'imagine qu'il y a cette idée-là de prise.
C'est vrai que ce qui m'intéresse le plus dans la photo, c'est le rapport qu'elle a avec le temps, et notamment cette... je me souviens d'avoir utilisé cette métaphore de l'acupuncture, la photo qui est prise au bon moment, au bon endroit.
Mais il y a presque quelque chose de délirant, en fait, dans le projet de Novalis. C'est-à-dire seulement une encyclopédie qui rassemblerait tout, mais en plus de photographier vraiment le moment presque du surgissement de l'idée.
Oui, mais c'est-à-dire que c'était les balbutiements de l'électricité à l'époque.
Ah.
Et eux, ça les avait... électrisés, si on peut dire.
Oui.
Ils n'ont pas connu le développement de la chose, mais pour eux, et donc l'idée de la conductibilité, c'est-à-dire que quelque chose est conducteur, et ils n'avaient pas la possibilité de mesurer les vitesses, etc., mais c'est ça qui les a. Et donc, ce qui les intéresse, c'est la conduction et à travers et dans la pensée, c'est ce qui connecte. La vitesse de connexion aussi. Vitesse
c'est presque
de
des neurologues.
Vitesse de surgissement, vitesse de connexion.
Mmh.
Ou enfin, plutôt les fragments seraient des neurones, oui.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, je vais lire un autre fragment, et juste après, on va entendre un extrait que vous avez commencé à nous citer, Jean-Christophe Bailly, un extrait des Disciples Assaillis. Mais d'abord, ce fragment, c'est le 396 dans mon édition Gallimard, en œuvre complète de Novalis. Voici ce que nous dit Novalis. Catalogue raisonné des opérations et remèdes dont l'homme dispose de façon permanente. La salive, par exemple, ou l'urine, n'y aurait-il pas utilisation possible des excréments, les émissions de semences, le fait de pouvoir bouger, soit en entier, soit localement, mettre le doigt dans la gorge pour vomir, se frictionner, se frapper, se comprimer, retenir son souffle, changer de position, fermer les yeux, etc., pincer, mordre. Là, on est loin quand même de... l'univers dispersé, infini.
Oui et non. Oui et non, parce que justement, là, je voulais en reprendre encore cette phrase qu'on va réentendre là sur la nature et la communauté merveilleuse où nous introduit notre corps.
Mm.
C'est bien le mot corps qu'il utilise à ce moment-là. Et donc, si on y réfléchit, tout ce qui vient d'être évoqué, la salive, y compris les excréments, c'est forcément, de toute façon, c'est des rapports de quelque chose qui rentre en nous ou qui sort. La respiration, il n'en parle pas là, mais il en parle à d'autres moments.
Ah, retenir son souffle, il dit.
Oui, ouais. Voilà, c'est le cas d'en parler ici dans l'émission. mais disons que c'est forcément, le souffle, c'est pas quelque chose qui est une émission humaine à proprement parler, c'est un retour, un renvoi, donc un échange. Et c'est ça qui le passionne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la dimension matérielle, et même on peut dire matérialiste, de cette rêverie idéale. C'est ça qui est très extraordinaire.
On écoute un extrait des Disciples Assaillis ?
Oui.
C'est par des chemins divers que vont les hommes. Qui les suit et les compare verra d'étranges figures prendre naissance. Figures qui appartiennent, semble-t-il, à cette grande écriture chiffrée que l'on aperçoit partout. Sur les ailes, sur les coquilles des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et les pétrifications, sur les eaux qui gèlent, à l'intérieur et à l'extérieur des roches, des plantes, des animaux, des hommes, dans les étoiles du ciel, sur les plateaux de résine et de verre frottés et mis en contact, dans les courbes de la limaille autour de l'aimant et dans les surprenantes conjonctures du hasard. On pressent dans ces figures la clé de cette écriture secrète, sa grammaire, Mais ce pressentiment lui-même ne se laisse pas réduire à des formes fixes et se refuse, semble-t-il, à se muer en une clé plus efficace. La somme de ce qui nous touche, on l'appelle la nature. Et la nature est donc en relation immédiate avec ces parties intégrantes de notre corps que nous appelons les sens. Des liaisons inconnues et mystérieuses en notre corps nous permettent de conjecturer des liaisons inconnues et mystérieuses dans la nature. Il suit que la nature est cette communauté surprenante, merveilleuse, où nous introduit notre corps.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Vous êtes ici avec nous pour parler de Novalis et de son encyclopédie. Nous sommes en train d'écouter un lithophone. Alors un lithophone, c'est un xylophone de pierre. Vous avez travaillé sur les animaux, sur le vivant, dans la continuité en fait de ce que dit Novalis dans cet extrait des disciples à Saïs, où il parle de toutes ces manifestations de signes, de signaux à travers ce qu'on appelle la nature. Et là, chez les romantiques, la nature, c'est avec un grand N.
Oui. Ben le lithophone, c'est donc là, comme j'ai parlé du fait qu'il a été étudiant et ingénieur à l'école de minéralogie du Freiberg, et à un moment, dans l'encyclopédie, il y a ce jeu de mots, il parle de liturgie, mais c'est écrit L-I-T-H, ça vient de lithique.
La pierre.
De la pierre. Donc, on voit bien, là, c'est condensé en un seul jeu de mots, le rapport, en effet, quasi scientifique à la géologie au sous-sol, et en même temps, l'idée de carrément une cérémonie religieuse, un rite qui pourrait s'élaborer à partir de cet ancrage hyper terrestre, d'une certaine manière. C'est assez miraculeux les lithophones en fait, et j'ai eu l'occasion chez un ami sculpteur que ça passionnait de frapper ces pierres. Elles ont une qualité de résonance un peu magique comme ça. Au passage, je signale que si vous allez à l'Opéra de Bordeaux, il y a la statue de l'architecte qui a fait cet opéra, qui s'appelle Victor Louis, je crois. Et si vous demandez l'autorisation au gardien, ou si vous le faites de manière cachée, vous prenez vos clés et vous tapez la cheville de Victor Louis, et la statue est en lithophone. C'est une statue sonore, c'est extraordinaire.
Et comment vous savez ça?
Ben parce que je le savais par cet ami, par des petites recherches qu'on peut faire. Et puis, je n'ai pas demandé l'autorisation, mais ça marche très très bien.
Voilà. Mais qu'est-ce qui vous fascine avec les pierres, Jean-Christophe Bailly? Et ce n'est pas qu'une question de personnel ou à vous en tant qu'écrivain, c'est vraiment, parce que c'est quand même dans la continuité de l'appréhension de la nature par Novalis.
Eh bien oui, et ça vient sans doute de mon rapport avec le romantisme allemand, mais disons, comme j'ai beaucoup travaillé plutôt sur les animaux, un peu sur les plantes, puis j'étais pendant un certain nombre d'années, même beaucoup d'années, professeur à l'école de paysage de Blois, donc j'ai essayé de faire réfléchir là-dessus. Et dans ce qu'on appelait autrefois les règnes, c'est plus à la mode de dire les règnes, mais le malheureux règne minéral, il était toujours écarté du vivant. Et c'est juste une question d'échelle, parce que les Alpes, c'est des jeunes filles. Elles vont devenir très vieilles, comme est vieux le Massif central. Ça bouge, ça vit tout le temps. Et donc, les pierres aussi sont sujettes au devenir. Et même si c'est moins visible que, évidemment, les plantes avec leur renouvellement continu, ou les animaux et les hommes qui sont voués à périr avec des vitesses d'enclenchement différentes les unes des autres. Mais disons, toute cette espèce de brassage permanent, il inclut pour moi le minéral. D'autant plus que le minéral, et ça, non, on le trouve déjà, cette intuition chez Novalis, le minéral, c'est l'enfant du sidéral. C'est-à-dire que les pierres, ou l'existence même de la planète Terre, c'est un rejet du ciel. C'est ça, on vient de là-haut. Donc, quand on lève la tête vers les étoiles, on lève la tête vers notre origine, d'une certaine manière.
Donc, quand on s'assoit sur une pierre, un rocher, on s'assoit sur le ciel.
Oui, d'une certaine manière, oui.
Vous faites cette distinction, Jean-Christophe Bailly, entre le bios, donc ce qui est vraiment la vie organique, tournée vers l'extérieur et qui a en soi son principe d'évolution, de croissance, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, et la physis. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'existence, mais qui effectivement n'a pas un principe premier, mais est traversée quand même, comme vous l'avez dit, par le devenir, par la temporalité. Est-ce qu'il y a quelque chose, cette idée-là qu'on entend déjà chez Novalis, quand il dit qu'il parle d'une communauté surprenante, merveilleuse, où nous introduit notre corps ?
Surprenant, merveilleux, c'est de ma faute, parce qu'en fait c'est un seul mot allemand. Et on peut le traduire, c'est Wunderbar, et on peut le traduire en le tournant un peu vers la notion de surprenant ou
vers merveilleux.
Merveilleux aussi.
Bon, on a mis les deux.
Voilà, ben ouais, c'est très bien. Voilà, il y a les deux variantes de traduction, mais c'est bien ce que ça veut dire. Et ça veut dire que dès qu'on sort de soi-même, on entre d'une certaine manière, oui, dans une communauté, mais comment ? En marchant, en touchant, par exemple, on touche quelque chose. Alors évidemment, on n'a pas le temps de réfléchir la plupart du temps, mais si on regarde par exemple un métier comme luthier ou même ébéniste, restons ébénistes, la façon dont déjà son toucher du bois, lui, va être complètement différent. C'est-à-dire, il va avoir et disons derrière la pensée novaliste, il y a cette idée d'un affinage généralisé de tous les modes de perception, quoi. Et donc avec moi égale non moi, avec l'affinage de ces modes de perception, évidemment une redéfinition constante de ce qui nous accompagne. Et évidemment que c'est quand même la dimension la plus critique, la plus juste, au sens critique, dans le bon sens du mot, du romantisme, notamment par rapport à ce qui arrive à notre planète.
Mais alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, cette idée d'une communauté des vivants, de non-distinction entre la nature et la culture. Oui. On parle de vivants d'ailleurs maintenant, pour marquer cette continuité ou continuum, comme vous disiez, Jean-Christophe Bailly. C'est une idée qui est beaucoup plus admise, beaucoup plus dans l'air du temps et tout. Pourquoi on ne la repère pas assez chez les romantiques allemands ? Pourquoi on ne cite pas assez les romantiques allemands ?
Je ne sais pas, justement, c'était notamment en lisant par de la nature et culture de Descola, j'étais très étonné, surpris, déçu même, avec tout le respect qui lui est dû, mais du fait qu'il ne fasse pas allusion même à une anti-tradition de la pensée occidentale qui se résume pas au savoir technique et à la maîtrise sur le monde.
Alors je précise, Philippe Descola, anthropologue, qui a beaucoup travaillé sur cette distinction nature-culture.
Et il a bien raison de le faire d'ailleurs, mais il s'appuie essentiellement sur évidemment des formes de pensée qui sont des formes de pensée non occidentales que les occidentaux ont largement contribué à écraser ou à réprimer, qui sont, disons, les pensées des peuples premiers, comme on dit, ou du moins les pensées, et le mot pensée doit être pris dans le sens le plus strict, c'est-à-dire les façons de se représenter, la façon dont on existe sur Terre. C'est ça, c'est ces formes de pensée-là. Alors, il peut aller chercher ça, comme là où il a travaillé en Amazonie péruvienne, il peut aller chercher ça en Sibérie, partout, etc. Et on trouve en effet des formulations qui sont absolument, absolument magnifique, saisissante, et qui toute repose sur l'idée d'une interconnexion permanente, généralisée, passionnante et dangereuse avec tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'il n'y a que des cousins. Il y a pas d'autre, il y a rien que des
cousins. Pourquoi c'est dangereux?
Ben dangereux parce que ça doit être négocié en permanence. C'est ce que l'origine du sacrifice, c'est l'idée qu'à partir du moment où on est prédateur et où on prélève, il faut mieux essayer de se mettre d'accord avec le milieu dans lequel on prélève. C'est-à-dire qu'on est, c'est pas une logique de quota, mais un petit peu, c'est une logique de dire faut faire gaffe quand même. Et donc c'est vrai que les chasseurs-cueilleurs, la forme de pensée qui est organisée dans leur société, c'est une pensée qui a toujours égard au milieu où elle advient. Voilà, c'est un petit peu le contraire du monde de Monsieur Trump.
On va écouter un autre romantique allemand, Jean-Christophe Bailly, un autre romantique que vous nous avez suggéré, je dirais pas in extremis, mais il y a quelques jours, parce que vous avez relu Novalis. Vous n'étiez plus trop sûr de votre choix, vous allez nous dire pourquoi. Il s'agit d'un extrait de la nouvelle Lens, qui date de 1835, qui a été écrite en 1835, par, je le prononce à la française.
Vous allez Georg Büchner.
Moi j'allais dire Georges. Oui. Georg Büchner.
Le 20, Lens passa par la montagne. Neige en altitude, sur les flancs et les sommets. Et dans la descente des vallées, pierrailles grises, étendues vertes, rochers, sapins. L'air était trempé, froid. L'eau ruisselait le long des rochers et sautait en travers du chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'atmosphère humide. Des nuages passaient dans le ciel, mais tout était d'une densité. Puis, le brouillard montait, vapeur humide et lourde qui s'insinuait dans l'épaisseur des fourrés, si molle, si flasque. Il avançait avec indifférence, la route lui importait peu, tantôt montait, tantôt descendait. Il n'éprouvait pas de fatigue, simplement parfois il trouvait pénible de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Au début, il avait ressenti une poussée dans la poitrine, quand les pierres s'échappaient soudain, quand la forêt grise s'ébrouait sous lui et que le brouillard engloutissait toutes les formes ou dévoilait à demi les majestueuses figures qui l'entouraient. Une poussée qui venait du fond de son être. Il cherchait quelque chose comme des rêves perdus, mais il ne trouvait rien.
Extrait donc de Lens de Georg Büchner. Mmh. Vous avez apporté votre édition, Jean-Christophe Bailly, un tout petit livre, très joli. Pourquoi vous avez eu envie d'entendre Büchner, à un moment donné, même presque Büchner à la place de Novalis?
Non, pas à la place, mais en relisant pour l'émission, j'ai beaucoup relu Novalis. Et il y avait les phrases que je connaissais par cœur, là, dont on a donné un petit... Mais j'ai voulu le relire, et en le relisant, je dois avouer que j'ai été quand même un petit peu attristé par la quantité de... Quoi, c'est difficile de dire ça, mais la quantité d'aspect un peu angélique, un peu doudou comme ça, qu'il y a par moment dans sa pensée, et aussi attristé, mais ça je le savais, mais je l'ai soigneusement évité, par le flirt qu'il y a dans sa pensée avec, disons, un certain nombre de notions qui viennent directement du christianisme. Et immédiatement, je me suis souvenu que, parallèlement, en même temps que je découvrais le romantisme allemand, je suis tombé sur ce texte que je considère comme extraordinaire et qui, lui, par contre, n'a pas pris une ride pour moi, qui est...
Il n'y a pas de relent chrétien?
Non, pas du tout. Qui est le Lens, donc, de Büchner. Pour juste aller vite, donc, le petit livre que j'ai amené, c'est l'édition que j'avais trouvée dans une librairie qui n'existe plus, à l'époque où il y avait beaucoup de librairies à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, ça m'a tellement soulevé que j'ai appris qu'il y avait des choses de Büchner qui étaient inédites à l'époque. Et avec mon copain Henri-Alexis Batch, c'était mon voisin au lycée, mais lui, il était le CAI, le premier en allemand, pas moi. Et il a beaucoup traduit, après, il a beaucoup traduit de livres de l'allemand. Et un des premiers travaux qu'il a fait, au-delà de m'aider pour les traduire des inédits dans l'anthologie du romantisme allemand, on a retraduit le livre parce que la traduction...
On n'a pas entendu la vôtre, hélas, là.
Non, mais c'est pas grave, disons, elle est un petit peu plus abrupte, c'est tout, mais elle est très très bien, elle était très bien lue, d'ailleurs. Pauvre Dédé.
C'est Eric Erson. Ouais. Pauvre Dédé, oui.
Bah, ouais. Non, mais je dis Dédé parce que c'est comme ça que Prévert l'appelait. Comment dire, pour revenir à
Lenz.
À Lenz.
Surtout qu'il nous reste 2 minutes pour parler de Lenz.
Donc c'était... disons, on est de l'autre côté. Si on prend la métaphore facile de la montagne, donc les romantiques allemands, c'est des jeunes gens comme ça, ils gravissent, etc. Puis à un moment, c'est vrai, il y a une espèce de sommet. Et si on lit le Lenz de Büchner, d'une part par la date 1835, c'est déjà une autre Allemagne, c'est déjà un autre monde, avec qui a pris des coups énormes sur la tête, commence à frissonner la révolution industrielle, dont d'ailleurs il y a des traces dans l'œuvre de Büchner, surtout dans Voisek, avec des atmosphères de cours de caserne, des choses qui n'ont plus rien à voir avec les petits torrents qui descendent de la montagne. Mais en même temps, dans cette montagne où descendent les torrents, il y a la descente, la chute, on peut dire, de Lenz. Lenz, c'était un poète qui a existé et qui a en effet perdu la raison et qui a séjourné dans les Vosges, à Waldbach, pas très loin de Strasbourg.
Et qui est touché par l'ennui.
Il est touché par l'ennui.
Enfin, même touché.
Et aussi, il est recueilli par un pasteur de l'époque qui est fameux dans la région, au Berlin, qui prend des notes sur le, parce qu'il est intrigué par ce personnage assez extraordinaire, visionnaire, qui le visite. Et à partir des notes d'Oberlin, Büchner, qui était lui-même exilé à Strasbourg parce qu'il avait fui la répression, parce qu'il avait été un militant, on peut dire, soulèvement de la terre de l'époque, il avait rédigé avec un pasteur, d'ailleurs, ce qui s'appelait le messager soie, et puis avec des étudiants, ils avaient été arrêtés, torturés, il y en a qui sont morts, et lui, il s'était exilé. Et dans cet exil, il tombe sur les notes d'Oberlin, et il y a dans ce texte une identification totale de lui, Büchner, à cet autre disparu 50 ans avant, et moi, je l'ai publié très vite, et puis j'ai réfléchi beaucoup, j'ai fait, bon, 3-4 préfaces pour les différentes éditions, et à chaque fois, je dis, c'est vraiment l'inauguration de la littérature moderne. C'est-à-dire, il n'y a plus du tout de référence, ni au genre, ni à quoi que ce soit, ni d'idéalisme mou. C'est vraiment, on est direct dans la matière du monde.
Ist wirklich ein gemütliches Restaurant, aber irgendwas hier drin macht mich ganz krank. Nein, es ist nicht der Wein, denn der ist herb und frisch, und es liegt nicht am Fleisch und es liegt nicht am Fisch. Der Ober ist sehr freundlich, nein, jetzt hab ich's entdeckt. Das macht die Gletschermusik, dass mir hier nichts schmeckt. Denn vergebens ist des Küchenmeisters hohe Kunst, wenn im Hintergrund Julio Iglesias grunzt. Ich hasse Musik, die aus den Ritzen zirrt, Musik, die mir den Spaß an der Musik verdirbt. Zu leise, um sie richtig zu hören, aber grad laut genug, um mich richtig zu stören. Ich liebe Musik, die atmet und lebt. Ich liebe Musik, so dass die Erde bebt. Ich liebe die Stille, die mich aufhorchen lässt. Ich liebe alle Geräusche, nur eins hasse ich wie die Pest. Das ist aus kleinen runden Löchern in der Wand, die Plätschermusik vom Endlosband. Und das Flugzeug nehmen kann, genieße ich schon das Drumherum von Anfang an. Ich liebe es erstmal in der falschen Schlange zu stehen, so kindlich freue ich mich darauf, die Welt von oben zu sehen. Ich mag die Kontrollen und ich mag den Rabatt, ich mag die Keilerei um einen Fensterplatz. Doch mit der grenzenlosen Freiheit ist dann sofort Schluss, wenn ich vom Abflug Frank Sinatra hören muss.
Bon, une chanson allemande, je ne m'aventurerai pas à donner le titre, vous faites la grimace Jean-Christophe Bailly, en tout cas c'est de Reina May, et ça n'est pas un choix notre réalisateur Riyad Kera, c'est un choix d'un autre, de notre autre réalisateur, Nicolas Berger. Voilà, les choses sont dites. Cette chanson, en tout cas, pour introduire cette séquence de fin d'émission, Jean-Christophe Bailly, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez parfaitement à lire, mais qui vraiment, voilà, vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
C'est une question extrêmement embarrassante. Premièrement, c'est pas très agréable de parler, beaucoup moins agréable de parler de ce qu'on n'aime pas.
Ah ouais, moi j'adore.
Que de ce qu'on aime. Premièrement, et plutôt qu'à un auteur, j'ai pensé à une réponse qui vient systématiquement chez beaucoup d'écrivains. Mm-hmm. Quand on leur demande d'où ils viennent, etc., qu'est-ce qu'a compté pour eux. Alors non seulement c'est rarement Novalis ou Buchner,
mais c'est vrai que vous êtes le seul Novalis.
Ça tant mieux. Mais ce qui me gêne chez les écrivains français, c'est pratiquement une fois sur deux au minimum une espèce de, on décline un totem comme ça, mm-hmm. qui passe, je dis pour aller vite, Flaubert, Proust, Céline et Duras. Voilà, ça c'est la ligne. Et puis après moi, et après il y a moi. Et alors là, moi je me sens tellement étranger à cette lignée, si on peut dire, et à chaque époque, que si on prend Flaubert, pour moi c'est tellement plus formidable, plus important, plus intelligent, plus intègre. Baudelaire, par exemple, contemporain strict, mais, et comme de Juste, lui, il n'écrit pas de roman, si on prend le roman, je trouve le projet de la comédie humaine beaucoup plus stupéfiant, beaucoup plus extraordinaire.
Mais c'est aussi un totem national de dire « je suis balsacien ».
Oui. Moi, je ne dis pas que je suis balsacien, je dis que la comédie humaine est un projet épatant, et puis c'est Baudelaire que j'ai mis en premier, et puis j'aurais pu en choisir plein d'autres. Et alors, après Proust, oh là là, le scandale. Mais ce n'est pas tellement Proust qui me fatigue, c'est le proustisme, je dirais. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux livres par mois qui sortent, j'ai mangé avec Proust, la cuisine chez Proust, et puis des trucs très subtils, philosophiques, etc. Et en fait, c'est pratiquement interdit d'être réservé. Et moi, évidemment, à aucun moment, je ne dirais de Proust que c'est pas un grand écrivain, bien entendu que non.
Vous avez aimé le lire?
Ni même, moyennement, justement. Parce qu'au bout d'un moment, j'étouffe. C'est-à-dire, tout le début, par exemple, c'est la maman. Quand on a fini avec la maman, la grand-mère, et ainsi de suite. Et finalement, ce monde ne s'étend pas beaucoup au-delà d'un giron, qui est premièrement le giron, magnifiquement décrit, magnifiquement vécu, aucun problème là-dessus. Mais moi, j'attends toujours de la littérature quelque chose de plus, peut-être plus naïf, de plus comme ça.
Je précise que vous touchez presque le thorax, un
étouffement.
Oui,
oui, c'est-à-dire que qui m'emmène ailleurs que dans ce que j'ai connu et qui m'a pas fait particulièrement souffrir. J'ai eu cette chance, d'ailleurs, au contraire. Mais voilà, ailleurs. Alors, si on prend à la même époque, justement, je disais au début de l'émission, c'était Apollinaire. Après, troisième nom. Alors, Céline, là, c'est carrément là. Par contre, je pense pas que ce soit un bon écrivain. Je le hais de tout mon cœur. J'ai eu la chance, si on peut dire, de tomber sur un livre de lui que Gallimard ne veut pas republier, que je pense qu'il faut republier demain matin. C'est ce torchon qui s'appelle Bagatelle pour un massacre. Mmh. Alors les Céliniens disent « Oui, mais là, il a déconné ». Non, il est au meilleur de lui-même. C'est un 300, je ne sais plus combien de pages, d'un délire antisémite, mais d'une violence et d'une vulgarité totale. Et finalement, il est libéré totalement dans son style est totalement libéré dans cette chose. Et après, quand j'ai essayé d'aller voir ailleurs, de regarder des textes plus connus et plus accessibles, je reconnais cette espèce de... Je me souviens une fois, je suis descendu d'un taxi en marche, enfin pratiquement en marche, parce que le chauffeur me faisait penser à une espèce de discours comme ça, râleur intégral.
Ah oui, je vois. Et juste Duras, en deux secondes.
Elle est gentille, mais c'est le narcissisme de l'écrivain.
Voilà. Il faut lire Novalis, donc. Merci.
Et Buchner.
Et Buchner. Merci beaucoup à vous, Jean-Christophe Bailly. De vous, on peut lire aussi Temps réel au seuil. Le parti pris des animaux, ça a été réédité en poche. La ville en éclats, paru aux éditions La Fabrique. Et donc, pour lire Novalis, il y a ses œuvres complètes qui sont disponibles chez Gallimard. Petite grimace, un appel aux éditions de Minuit pour réimprimer l'encyclopédie. Et lisez Lens de Buchner. Dites très vite.
Lens de Buchner, on le trouve facilement. Est en plusieurs éditions, y compris de poche.
Ok, et un grand merci aussi à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Riyad Kerad à la réalisation, sauf pour la chanson à la fin, et à Jérémy Kaufmann à la prise de son. Toutes ces émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France. Et voilà,